Donc, nous essayons toujours de creuser davantage qu'est-ce que c'est que l'homme tel qu'il nous est présenté à travers l'Écriture, dans une lecture non pas au sens strict de théologien, mais une lecture philosophique. C'est ce que nous avions commencé au début de l'année, pour essayer de comprendre ce livre si important de la Bible, qui, comme témoignage pour le philosophe, est sans doute, et je crois qu'on peut dire même certainement, le livre le plus intéressant sur l'homme. Et lire l'Écriture, certains philosophes juifs qui ont fait ça par rapport à l'Ancien Testament et qui n'ont pas hésité de le faire, Madame Amando l'a fait. Mais alors elle ne le prenait pas par rapport à l'homme, elle le prenait par rapport à certains grands thèmes qu'on trouve dans l'Écriture, en essayant de réfléchir au plan philosophique. C'est compréhensible, puisqu'on le fait bien par rapport à tout ce que peut représenter des textes de tradition religieuse, autre que la tradition chrétienne et la tradition judéo-chrétienne. On peut, le philosophe s'intéresse à tout, comme le philosophe s'intéresse à l'art, et peut s'intéresser à ce que représente le Coran. Si on avait le temps, vous voyez, on ferait l'homme selon la Bible et l'homme selon le Coran. Et ce serait, je crois, très intéressant, parce qu'on verrait des dimensions de l'homme dans la Bible qui apparaissent d'une façon très nette, ce que nous avons essayé de faire, et aussi les brisures, les fautes, l'orgueil, qui brisent le chef-d'œuvre de Dieu. Comment l'homme a cette liberté, Dieu l'a créé libre. Comment l'homme a cette liberté de se détourner de Dieu. Et comment l'homme s'est détourné de Dieu, non pas directement par lui-même. C'est ça qui est très curieux. L'Écriture montre que l'homme se détourne de Dieu en étant toujours complice de quelqu'un qui l'entraîne. Le grand mystère de la tentation. L'Écriture nous montre la tentation. Et donc nous montre que la faute d'orgueil, c'est pas l'homme seul, c'est l'homme entraîné par le philosophiquement on dira les forces du mal, ou quelqu'un qui est la voix du mal, symbolisme du serpent, symbolisme du dragon, serpent antique et le grand dragon. Ces deux grands symbolismes qui nous sont montrés à travers toute l'Écriture, pour nous faire comprendre que l'homme, de fait, ne s'est pas détourné par lui-même de Dieu. Il s'est détourné de Dieu, emporté par quelqu'un qu'on représente symboliquement. Je parle au plan philosophique, hein, comprenez bien. Au point de vue de la foi, je dirais tout de suite que c'est le démon. Au point de vue philosophique, je ne peux dire que c'est un symbole de celui qui est l'animal le plus rusé. C'est significatif. Celui qui, par ruse, arrive à vous séduire. Celui qui ment pour vous séduire, le prince du mensonge, celui qui non seulement vous séduit, mais vous intimide. Il y a diverses manières, hein, d'attirer vers le mal. Ou vous êtes séducteur, ou vous êtes celui qui intimide. Le dragon, c'est la puissance d'intimidation. Et vous retrouvez symboliquement, encore, je parle toujours symboliquement, et parce que que j'ai le droit de regarder ces grands textes qui sont extraordinaires au point de vue symbolisme, je vois qu'il y a la bête de la terre et la bête de la mer dans l'Apocalypse. Et là, c'est mis d'une façon très étonnante. La bête de la mer, c'est la séduction de l'intelligence. Et la bête de la terre, c'est la puissance. Donc nous retrouvons toujours cette espèce de dualisme. C'est que la tentation ne se présente pas à nous d'une seule manière. La tentation se présente à nous toujours selon ces deux aspects. C'est quand même très curieux de voir ça. Séduction de l'intelligence et intimidation du cœur. On intimide affectivement, en vous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre issue. Le dragon, c'est ça. Le dragon veut vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue. Il faut tout simplement continuer sa route comme ça. C'est assez étonnant de voir ces deux aspects, vous voyez, qui sont comme les antithèses de l'action qui nous est montrée encore une fois dans l'Écriture. Deux actions supérieures, l'homme est entre les deux, l'homme est entre eux, des forces plus grandes que lui et des forces inférieures, d'une certaine manière, qui l'attirent vers le mal. Autrement dit, l'homme apparaît à travers toute l'Écriture comme celui qui peut se laisser attirer vers quelqu'un qu'on appelle Dieu, que la tradition religieuse appelle Dieu et le Créateur, ou au contraire se laisser séduire, se laisser intimider par l'antithèse de Dieu, si j'ose dire, celui qui est l'ange mauvais, celui qui est le séducteur, celui qui essaie par tous les moyens, l'adversaire, de détourner l'homme de sa véritable voie. Et l'homme apparaît comme intermédiaire entre les deux. Dieu agit sur l'homme par le point de vue de sa parole. L'homme peut être enseigné par Dieu. L'homme peut être dirigé par Dieu. La parole et le geste. Et l'homme peut être séduit par le démon, ou l'homme peut être intimidé par une puissance qui s'impose à lui d'une façon telle que l'homme ne sait plus comment faire. Il se laisse prendre, presque envoûté. Vous voyez, ça explique comment, et je crois ceci important à noter, ça explique comment on voit dans toute une perspective philosophique, c'est la grande perspective néoplatonicienne, qui a été quand même une perspective extrêmement importante à travers toute l'histoire de la pensée, aussi bien chez les théologiens que chez les philosophes, la perspective néoplatonicienne qui situe l'homme toujours à l'horizon. L'homme est l'horizon du monde spirituel et du monde matériel. Le monde spirituel étant ce qui attire l'homme vers quelque chose de plus parfait, et le point de vue matériel qui attire l'homme vers quelque chose d'imparfait et le mal. Autrement dit, l'homme se situe entre un bien absolu et un bien et un mal absolu, absolu, dans la mesure où il y a un mal absolu, ça, il n'y a pas de mal absolu au sens strict, mais un mal qui s'impose à lui. Vous voyez, ceci, dans une perspective de lecture de l'Écriture, c'est très net. Je vois bien que l'homme est le lieu de la lutte. Ils avaient peut-être un aspect très important de l'anthropologie religieuse, là. L'homme est le lieu de la lutte. Il est le lieu de prédilection de l'alliance avec Dieu. Il y a une prédilection très particulière de Dieu vis-à-vis de l'homme. Dieu s'intéresse à l'homme. Et ça, à travers toute l'Écriture, on le voit bien. Dieu s'intéresse à l'homme. Dieu ne peut pas abandonner l'homme, en ce sens que il est celui qui garde l'homme comme la prunelle de son œil. C'est extraordinaire. Et il y aurait des quantités d'autres expressions qui seraient intéressantes à voir. La manière dont on nous montre la prédilection de Dieu sur l'homme, l'amour de Dieu sur l'homme. Une mère pourrait-elle abandonner son tout petit ? Dieu n'abandonnera pas Israël. Donc cette sollicitude de Dieu, cette sollicitude de Dieu sur l'homme montre qu'il y a dans l'homme quelque chose d'unique, quelque chose de très particulier, quelque chose qu'il s'agit de découvrir philosophiquement parlant. Le philosophe interroge l'Écriture pour essayer de mieux comprendre et se poser des questions qui sont plus particulières. Comment se fait-il que l'homme est le lieu de cette sollicitude de Dieu d'une façon très spéciale, et comment l'homme aussi est le lieu de la jalousie du démon. Il y aura une inimitié entre le démon, Satan et la femme. Donc une lutte implacable, une lutte qui implique une haine implacable. Jamais le démon ne se dira vaincu. Il ira jusqu'au bout de sa lutte. Et c'est bien ce que nous découvrons à travers l'Écriture. Nous découvrons qu'il y a cette lutte incessante et que c'est l'homme et la femme qui sont l'un et l'autre l'objet à la fois de la sollicitude de Dieu, de l'amour extraordinaire de Dieu pour lui, et en même temps, le lieu de la plus grande jalousie. Voilà, je crois, ce que nous pouvons assez facilement constater dans l'Écriture. C'est une des façons de voir l'homme, vous voyez, ça complète ce que nous avons vu jusque maintenant. C'est autre chose, c'est un autre aspect. C'est l'aspect de la lutte. La vie humaine, hein, c'est dit dans Job, parce que Job, c'est un délivre au monde d'une façon étonnante, cette lutte. La vie humaine est un service militaire. C'est une lutte incessante. L'homme doit lutter tout le temps. Il doit lutter tout le temps pour essayer d'être victorieux. Et que c'est de fait, parce qu'il est l'enjeu de cette espèce de jalousie effrayante du démon à son égard. Alors, pourquoi l'homme est-il cet horizon? Ou comment se fait-il que l'homme est le lieu de ses luttes? Qu'est-ce que ça veut dire? Je constate ce que l'Écriture me dit. Et maintenant, j'essaie philosophiquement de comprendre, pas au niveau de la théologie, mais au niveau de la philosophie. De comprendre que l'homme est bien le lieu de ses plus grandes luttes. Alors, je crois qu'il y a deux choses à voir. La première, l'homme, l'horizon. Dans la vision des néoplatoniciens et dans la vision de l'Écriture. L'homme, l'horizon du monde spirituel et du monde matériel. L'homme, donc, d'une certaine manière, synthèse de ces deux mondes. Il porte en lui une nostalgie toujours plus profonde à l'égard du point de vue spirituel. L'homme ne peut pas se contenter des biens matériels. Les biens matériels, très très vite, l'encombrent. Quand il ne les a pas, il les désire, c'est bien évident. Mais quand il les a, très vite, il en fait le tour et s'aperçoit qu'il ne peut pas s'arrêter là. Il y a en lui une nostalgie vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette nostalgie vers quelque chose de beaucoup plus grand est à la fois du côté de l'intelligence et du côté du cœur. L'homme ne peut pas s'arrêter dans la recherche de la vérité. Il y a en lui une nostalgie d'une vérité toujours plus profonde. Une vérité qu'il doit essayer d'atteindre plus profondément. C'est comme infini. On ne peut jamais s'arrêter dans la recherche de la vérité. Une fois que ça a commencé, on ne peut jamais s'arrêter. Et c'est vrai, parce qu'on peut progresser tout le temps. Je ne peux jamais dire, au point de vue recherche de la vérité, maintenant ça suffit. Si on dit ça, ça prouve qu'on n'a pas découvert ce que c'était que la vérité. On a besoin d'aller toujours plus loin. Et c'est vrai, au plan de vue scientifique, mais encore beaucoup plus vrai au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique. On sait que la réalité a une richesse unique, que l'homme a une richesse unique, que je n'arriverai jamais à épuiser. Ce qui fait que je peux tout le temps, et je dois tout le temps recommencer, à connaître davantage. Et ceci montre la parenté fondamentale de l'homme avec ce monde de l'esprit. Je porte en moi une étincelle d'éternité. Je porte en moi quelque chose qui n'est pas de ce monde et qui est une attente vers quelque chose de plus grand. Ceci du point de vue de l'intelligence, dans cette recherche de la vérité, et du point de vue du cœur. Mon cœur veut aimer toujours plus, veut aller toujours plus loin dans l'amour. Mon cœur a soif d'aimer toujours plus. Je ne peux jamais, du côté de l'amour, dire « ceci suffit ». Quand on commence à aimer, on veut aimer toujours plus. Et on est insatisfait de l'amour qu'on a. Il y a donc, au plus intime de moi-même, un appel vers un amour toujours plus grand. Et puis, en même temps, je vois mes limites du point de vue de mon corps. Et ces limites, elles sont peu vécues lorsqu'on est jeune, et elles sont très vécues quand on vieillit. On s'aperçoit beaucoup mieux. La jeunesse a l'avantage de pouvoir croire qu'on pourra toujours dépasser ses limites. Ce qui fait qu'elle n'est jamais prudente. Parce qu'elle croit qu'elle pourra toujours aller plus. Tandis qu'à partir d'un certain âge, on s'aperçoit qu'on a des limites et que ces limites augmenteront. Quand on est jeune, on parle de demain. Demain, j'aimerai plus. Demain, j'aurai une agilité plus grande. Quand on vieillit, on sait que demain augmentera nos limites. Et donc, ces limites deviennent des ornières. Et on s'aperçoit de cette limite qui est en nous, le poids du corps. Et ceci fait comprendre, je crois, cette chose très étonnante, qu'il y a dans l'homme quelque chose de très unique. Il est un dans son être, et cependant, au niveau de sa vie, il y a quelque chose d'infini dans sa vie, un appel vers l'infini, parce qu'il est esprit, et en même temps, un conditionnement extrêmement pesant à cause de son corps. Il est limité par son corps. Et cette limite de son corps fait que il ne peut pas réaliser tout ce qu'il voudrait réaliser. Il est conditionné par le temps et l'espace, le lieu. Je crois que ceci nous aide à comprendre le secret de l'homme, chef-d'œuvre d'amour, dans une vision de sagesse au plan philosophique, on pourra dire que l'homme est un chef-d'œuvre de Dieu, du Créateur, parce qu'il unit l'esprit et la matière, et les unit dans l'être, une union substantielle, pas une simple juxtaposition, pas simplement quelque chose qui fait que l'esprit est lié à la matière pour l'assumer, pour la dominer. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est qu'il y a une unité d'être. Et cette unité d'être est au-delà de la distinction matière et forme, esprit et corps. C'est quelque chose de plus profond. Cette unité d'être dans la personne humaine. Je crois que là, nous touchons, vous voyez, un aspect extrêmement profond de ce que c'est que l'homme. Il y a en lui cette unité substantielle dans l'ordre de l'être. Et cette unité substantielle dans l'ordre de l'être porte, assume, double aspect, un esprit ouvert à l'infini et un corps limité, un corps terriblement limité, précaire, fragile, source de toutes les contingences. L'être humain est fait des deux, et l'être humain porte les deux. Alors, nous allons à partir de là essayer de comprendre s'il existe un être purement spirituel. Le philosophe ne peut pas dire plus, hein. S'il existe parmi les créatures des anges, s'il existe parmi ces anges des anges qui se sont opposés à Dieu, comme le disent certaines traditions religieuses, comme certains mythes religieux le présentent. Le philosophe a le droit de regarder ça comme des hypothèses extrêmement intéressantes du reste. Un savant s'intéresse toujours aux hypothèses, et un philosophe a le droit de s'intéresser à des hypothèses qui lui sont données par les traditions religieuses. Il ne pourra pas dire, oui, il existe nécessairement des anges. Oui, il existe nécessairement le démon. Il ne peut pas le dire. En tant que philosophe, les anges sont comme des mythes que certaines philosophies ont dit, il existe des éons, des êtres intermédiaires entre Dieu et l'homme. La philosophie néoplatonicienne, justement, l'a dit. Il existe des êtres qui sont des intelligences pures. Même Aristote a dit qu'il existe des substances séparées, intelligences pures, que nous, en tant que chrétiens, nous appelons des anges. Nous voyons donc que des philosophies, même indépendamment de la révélation, ont émis cette hypothèse qu'il existe des substances séparées, des intelligences pures, des éons, des êtres qui étaient entre Dieu et l'homme. Et c'est curieux que l'Écriture me met aussi en présence de cette hypothèse. C'est possible qu'il existe cela. Or, si ces réalités intermédiaires existent, que certaines soient tournées vers Dieu avec amour, que d'autres se soient détournées de Dieu par orgueil. Parce que si l'ange, ce que nous appelons ces substances séparées, ces intelligences pures, si ces intelligences pures, si ces anges existent et ont péché, leur péché ne peut être qu'un péché spirituel. Et donc, un péché d'orgueil. Les anges ne peuvent pécher que par orgueil. Et comme ils ont péché par eux-mêmes, puisque rien n'est entre Dieu et eux, pas d'intermédiaire. Ils sont tout proches de Dieu comme esprit. Ils ont péché sans l'influence d'autres êtres. Leur péché d'orgueil est donc le fruit unique de leur orgueil, c'est-à-dire d'eux-mêmes. Ils sont par eux-mêmes orgueilleux et ils se sont maintenus dans l'orgueil par eux-mêmes, sans aucune influence étrangère. Ce qui explique que le péché de l'ange, s'il existe, hein, au plan philosophique, s'il existe le péché de l'ange, est un péché qui ne peut pas être remis. Il faudrait détruire la liberté de l'ange pour que l'ange puisse revenir sur sa faute. Je crois que tout ça, nous devons le dire. C'est intéressant, du reste. Parce que la théologie, hein, viendra après et nous dira, mais oui, tout ça, ça existe. Mais le philosophe doit d'abord réfléchir là-dessus. Et si c'est beaucoup de théologiens aujourd'hui refusent les anges, c'est parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi au point de vue philosophique. Ils n'ont pas assez réfléchi sur l'hypothèse des anges, qui est une réflexion philosophique qui a existé depuis très très longtemps et qui n'est pas du tout quelque chose d'invraisemblable. Au contraire, dans la grande vision néoplatonicienne, cette vision-là est la vision de sagesse. Si Dieu est esprit, entre la matière et l'esprit, il est normal que Dieu ait créé des esprits. Et que Dieu ait créé de purs esprits, avant de créer la matière. Alors évidemment, cette vision néoplatonicienne, nous ne l'acceptons pas entièrement, parce que pour eux, Dieu ne peut pas créer immédiatement la matière. Il la crée par l'intermédiaire des éons, par l'intermédiaire des substances intellectuelles, ou par l'intermédiaire de l'âme. Alors, nous ne pouvons pas accepter ça. Dieu est le créateur immédiat de tout ce qui est. Et la création ne peut pas accepter de médiateur. L'acte créateur est l'acte premier sans intermédiaire. Et ceci, c'est le propre, justement, de cet acte fondamental qu'est l'acte de la création. Et c'est pour ça que là, les néoplatoniciens n'ont pas compris suffisamment ce que c'était que l'acte créateur. Ils ont regardé ça dans une perspective d'émanation et d'une émanation nécessaire, comme si la création était quelque chose qui enrichissait Dieu. Ils ont oublié que si Dieu crée, ça ne pouvait être que librement. Et ça ne pouvait être que dans une surabondance d'amour. Dieu n'a pas besoin de sa créature s'il est Dieu. La créature a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de sa créature. Dieu peut se lier à sa créature librement. Dieu peut faire des alliances avec la créature librement, dans un pur amour et dans un amour de surabondance. Mais Dieu n'a pas besoin de la créature pour être Dieu. Autrement, il ne serait plus Dieu. Si Dieu avait besoin de la création et de la créature pour être Dieu, il ne serait plus Dieu. Donc si Dieu crée des anges, et s'il crée des anges en faisant que les uns l'adorent et l'aiment, et que les autres se révoltent contre lui, parce qu'ils n'acceptent pas cette dépendance radicale dans leur être, à l'égard de celui qui est premier, qui est Dieu, qui est leur créateur. Nous pouvons alors comprendre comment il est normal, dans cette perspective telle que la Bible montre, qu'il y a comme une espèce d'opposition tyrannique entre les anges déchus, les démons, et cette petite créature qui est esprit et matière. Cette petite créature qui est l'homme et la femme, dans laquelle l'esprit et la matière sont liés. Il y a comme une espèce d'opposition et de jalousie. Pourquoi ? Parce que cette petite créature, la Benjamine, la dernière, a reçu de Dieu quelque chose que les anges, que ces créatures purement spirituels, n'ont pas reçu. Et ces créatures purement spirituelles sont devenues jalouses de ce que les Benjamins, les tout derniers, ont reçu. Alors nous redécouvrons là, vous voyez, un thème extraordinaire à travers toute l'Écriture, la jalousie des aînés à l'égard des Benjamins, qui est un thème très curieux et qui est extrêmement intéressant parce qu'il est au cœur de la lutte. Cette lutte qui existe et que nous voyons dans laquelle l'homme est engagé, cette lutte, elle est commandée par la jalousie. Nous l'avons déjà vu. Jalousie de l'homme, de l'aîné à l'égard du Benjamin, jalousie de Cain à l'égard d'Abel. Mais ici, alors, nous dépassons cela et nous allons beaucoup plus loin. Nous voyons que cette jalousie première de Cain à l'égard d'Abel, mais elle est commandée par une autre jalousie. Et elle est dépendante d'une autre jalousie, de la jalousie fondamentale, la jalousie des esprits malins, des esprits qui se sont révoltés contre Dieu, des démons à l'égard des petits Benjamins. Alors, là, nous découvrons peut-être l'objet même de cette jalousie.